Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ancora a sinistro, Alex Del Piero riesce a guadagnare palla di Milito, 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 Principe Milito. Bocio è libero per il traversone pericoloso, Mare Orsi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien bien sûr. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maillard-Pacini. Salut Guillaume.
Salut Johan et bonjour tout le monde.
Dis donc Guillaume, qu'est-ce qu'on vient d'entendre là? On ne viendrait pas d'entendre le nouveau jingle du podcast Calcio et Pépé?
Écoute, un jingle tout frais, et ça fait du bien Johan. Ça fait du bien, on se sent tout neuf, on se sent tout propre, on a gagné en année parce que n'empêche le temps passe. Ouais. On est ensemble avec l'auditeur depuis pas mal de temps et ça fait plaisir de retrouver tout le monde parce que c'est vrai que bon, on avait un rythme un peu plus épars ces dernières années, on va dire cette dernière année surtout, mais là voilà, on essaie de se dégager du temps pour sur la demande des gens qui nous réclament et ça fait plaisir. Et puis voilà, parce qu'on avait aussi envie, donc content de vous retrouver avec ce jingle tout neuf et tout ce site, Johan, qui est tout neuf aussi.
Exactement, le site calcioepp.fr, vous pouvez aller voir, c'est le site vitrine du podcast, vous avez tous les liens pour vous abonner sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Acast et sur pas mal d'autres plateformes. Voilà pour les quelques nouveautés. Guillaume, on va évoquer aujourd'hui une équipe décevante du début de saison. Et c'est même, selon les auditeurs sur Twitter/X, on avait fait un petit sondage, l'équipe la plus décevante du début de saison, selon nos auditeurs. J'ai nommé la Roma, mon cher Guillaume. Alors, on va faire un petit point chiffre déjà, mon cher Guillaume, avant de...
Allons-y.
À l'analyse. Alors, on va se concentrer sur la Serie A. En Europa League, il y a eu 2 matchs, 2 victoires. Très compliqué d'ailleurs à Tiraspol lors du premier match. En championnat, la Roma est donc 10e avec 11 points, 3 victoires, 2 nuls, 3 défaites. 11 buts encaissés en 8 matchs pour 7 expected goals concédés. C'est-à-dire que la Roma encaisse beaucoup plus de buts qu'elle finalement ne concède d'occasion. On va y revenir plus tard. Il y a peut-être une question à se poser autour du gardien, notamment. Le plus inquiétant pour les supporters de la Roma a joué sur les 8 matchs de ce début de saison. La Salernitana, l'Hellas Verona, Empoli, Genoa, Frosinone, Cagliari. C'est-à-dire qu'on est sur 6 équipes qui vont être dans celles qui vont lutter pour ne pas descendre. Sans doute, il n'y en aura peut-être pas beaucoup d'autres. Donc, 6 de ces 8 matchs étaient quand même largement à la portée de la Roma. Et pourtant, vraiment pas des bons résultats. Un seul gros match face à un adversaire puissant contre l'AC Milan, mon cher Guillaume. Défaite 2-1 de la Roma à domicile.
Oui.
Par où tu veux commencer? On peut commencer par les prestations. Je me suis noté qu'on parle un peu des recrues, du gardien, de Mourinho.
Écoute, vas-y, lance le sujet que tu préfères en prémisse.
Bon, on va regarder un peu les prestations déjà, mon cher Guillaume.
Tu commences tout de suite par le plus délicat.
Bah oui, parce que c'est pas joli, c'est une équipe qui ne dégage finalement pas grand-chose. C'est un peu problématique, pas spécialement de caractère, pas spécialement de force offensive, plutôt de la faiblesse défensive. Des joueurs qui ont du mal à être à leur niveau. On a un jeu avec l'arrivée de Lukaku, et ça on pouvait l'anticiper, hein, Guillaume, qui devient très stéréotypé. Alors la Roma a beaucoup le ballon parce que les adversaires ont bien compris que il suffisait de laisser le ballon à la Roma pour que eux-mêmes soient en difficulté, pour que cette équipe soit en difficulté, parce qu'elle a du mal à se créer des occasions. Et pourtant, avec l'arrivée de Lukaku, c'est beaucoup de jeux longs, de jeux directs sur Lukaku, parce que lui, on sait qu'il fait des différences, Guillaume, en Serie A. Le championnat est ce qu'il est, il n'est pas au top niveau européen qu'on a connu, mais un Lukaku dos au but ou lancé dans la profondeur d'ailleurs fait des différences.
Bah, surtout Lukaku en Serie A, Johan, tu le sais, un joueur vraiment qui est dominant par son physique, par ses mouvements. Ça l'a toujours été, même la saison dernière avec l'Inter, où la première partie avait été plus difficile, la deuxième, il était revenu de blessure et on avait vu en fin de saison quand même qu'il avait mis bien plus que sa dizaine de buts. Donc, ça reste un joueur qui, en Serie A, sait faire la différence et il l'a fait quand même depuis son arrivée à la Roma. Après, est-ce que, comme tu le disais, au niveau du jeu, justement, ça va encore plus le stéréotyper dans le sens où Lukaku va attirer les ballons, va attirer le jeu, va attirer les longs ballons. Donc forcément, tu auras peut-être moins de circuits de passe, déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais là, forcément, ça va être du jeu direct sur Lukaku. On sent quand même une entente avec Dybala, on sent qu'il y a une espèce de complicité entre les deux, parce que je pense qu'ils sont conscients aussi, à part peut-être Pellegrini qui reste le capitaine et un élément majeur de l'équipe, qui sont peut-être les deux meilleurs joueurs, ou du moins que c'est peut-être les plus importants. Donc il y a une espèce de symbiose qui s'est créée entre les deux, mais c'est évident que Lukaku apporte quelque chose que la Roma n'avait pas, surtout Johan. Parce qu'Abraham, la semaine dernière, ça a été très, très compliqué. Il avait beaucoup de difficultés. C'était pas du tout l'Abraham qu'on avait connu la première saison. Donc, forcément, l'arrivée de Lukaku a changé un peu la donne. Après, vu qu'on parle des prestations et du contenu, tu l'as justement souligné, je l'avais regardé avant qu'on enregistre, le calendrier de la Roma, c'était quand même un calendrier, facile, entre guillemets, parce que c'est des adversaires à ta portée. Et que là, du coup, tu vas jouer l'Inter, tu vas jouer à Lazio, hein, il me semble, le derby qui va arriver je crois que c'est le 12 novembre. Donc voilà, c'est avec le deuxième gros, enfin, le troisième après Milan, l'Inter. Donc oui, au niveau des prestations, en tout cas, on est quand même sur la lignée de la dernière saison où ça reste quand même assez triste. Et moi, Johan, je me mets toujours à la place des supporters. Tu sais, un peu comme à la Juve. Quand tu payes ta place, quand tu fais des déplacements, parce que on connaît, toi et moi, beaucoup de supporters de la Roma aussi en France. Et quand tu fais le déplacement pour aller à Olympico, mais est-ce que tu as vraiment, alors tu as forcément envie d'y aller parce que voilà, tu vas voir ton club, mais au niveau du jeu, est-ce que tu es vraiment excité aujourd'hui à l'idée d'aller voir la Roma, qui, on le rappelle quand même, enchaîne quasiment bientôt son 30e guichet fermé, hein. Donc pour le coup, ouais. Il y a quand même un stade qui est rempli à chaque match, et ça, c'est une donnée quand même hyper importante où vraiment il y a une espèce d'euphorie et de bloc qui s'écrit autour de Mourinho, et ça, il a toujours été capable de le faire, il le fait toujours, mais voilà, l'euphorie qui est autour de Mourinho et de la Roma, j'ai vraiment l'impression que ça se limite à Rome, les supporters de la Roma qui sont à Rome, et autour, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de sévérité dans les joueurs, parce que même sur Twitter, tu vois, j'en reçois de supporters romains qui ne sont pas forcément sur place, et qui ne sont peut-être pas dans le prisme romain, et qui me disent, oui, alors Mourinho, c'est... Voilà... on en a un peu marre. On rappelle, Johan, son salaire, c'est combien, Mourinho?
C'est 7,5.
C'est pas mal, quand même.
C'est 7,5.
7,5. Ouais, ça fait quasiment 7,5 net par an sur 3 ans. Ça fait beaucoup. Et pour l'instant, tu as gagné, alors certes, une Ligue Europa Conférence, qui pour le club, dans une moindre mesure, est historique, entre guillemets. Mm-hmm. Mais est-ce que, justement, ça se justifie quand on fera le bilan? Parce que il est probable peut-être que Mourinho parte en fin de saison. Est-ce qu'on tirera un bon bilan de ces 3 années Mourinho? Ça, c'est la vraie question, Johan.
On aura le temps d'y revenir, mais tu sais, il y a un truc, c'est que dans ce club qui n'est pas habitué à avoir des trophées, Rien que le fait d'avoir gagné un trophée européen, même si c'est la petite Coupe d'Europe, ça sera forcément en faveur de Mourinho. Et il tournera son bilan autour de ça. Tu disais, ce que les gens viennent chercher au stade, ça paraît évident qu'ils ne viennent pas chercher du jeu, parce que en fait, autant la première année, il y avait encore des matchs qui étaient aboutis, je me souviens de prestations vraiment très intéressantes, où il y avait du jeu, où il y avait la prise de risque, où il y avait des joueurs dont on voyait que les qualités pouvaient être exaltées par ce que demandait Mourinho. Autant la deuxième année était beaucoup plus compliquée, je trouve, enfin plus compliquée en termes de jeu, beaucoup moins de matchs aboutis pour le coup en termes de qualité de football, de construction de jeu, de schéma préférentiel qu'on pourrait voir, d'élaboration de jeu, de réflexion autour du jeu. Et la troisième année, là, elle est même encore pire que celle de l'année dernière. Ça commence vraiment très, très bas sur le plan du football. Donc, ce délitement commence effectivement un petit peu à user. Ça ira tant que, finalement, les résultats européens permettront de cacher un peu la faiblesse de ce qui se passe en Serie A, hein, parce que Mourinho avait comme ambition quand même de stabiliser la Roma dans le top 4, et pour le moment, en deux saisons, il n'y est pas parvenu une seule fois à placer cette équipe dans le top 4. Là, vu comment c'est parti cette saison, avec les points de retard déjà accumulés, ça va être encore compliqué. Et puis, il y a forcément une interrogation aussi sur les recrues, Guillaume, sur le marché des transferts qui a été effectué, parce que quand tu recrutes Mourinho, tu ne recrutes pas simplement un entraîneur, une méthodologie, tu recrutes aussi quelqu'un qui a une vision très court-termiste. Et Mourinho joue beaucoup sur la carte de « j'ai lancé plein de jeunes ». Il faut toujours regarder dans quelles circonstances les jeunes ont été lancés. Il faut toujours regarder, est-ce que ça a été un one-shot ou est-ce qu'ils ont pu s'installer. Beauvais, par exemple, a pu s'installer. Volpato a eu un petit peu de temps de jeu. Missori, ça a été du one-shot. Pizilli, pour le moment, ça a été un one-shot. Pagano, il commence à faire des rentrées en jeu. Mais tu vois, on n'est pas en train de parler d'un mec qui a installé trois jeunes dans l'équipe, en fait. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est des joueurs prêts, et on l'a vu lors de ce mercato, en allant chercher des Paredes, des Renato Sanchez, des Aouar, des Ndika, des Christensen, et pour le moment, quand on regarde les débuts de saison, alors il faut faire toujours un petit peu attention, hein, ce n'est qu'un début de saison, ce n'est que 8 matchs en même temps. 8 matchs, c'est 20% du championnat, donc on n'est pas non plus sur rien du tout. Mon bilan rapide des recrues, tu me diras si tu es d'accord, mon cher Guillaume. La recrue positive, c'est Lukaku,
évidemment,
qui change le visage du 11. Il y en a un deuxième qui a très mal commencé et sur les deux matchs les plus récents, était pas trop mal, c'est Paredes, où j'ai trouvé qu'il commençait à prendre du rythme, à accélérer un petit peu le jeu. Il a forcément une qualité de passe verticale qui va être utile aussi pour aller chercher Lukaku. Donc, peut-être que l'association va être intéressante. Après, le reste, Ndika très en difficulté. D'ailleurs, entre parenthèses, Mourinho qui a quand même dit que Roger Ibanez avait été très critiqué, notamment pour ses erreurs hein, dans des matchs couperets, notamment dans les derbies. Mais il disait qu'il amenait beaucoup de sécurité globalement à l'équipe. Et quand ton successeur est là et que tu prends ça, ça veut quand même dire qu'il est bien conscient que Ndika, pour le moment, c'est compliqué. Christensen, très en difficulté. D'ailleurs, Guillaume, les derniers matchs, c'est Karsdorp qui semble reprendre le haut de la hiérarchie des latéraux à droite, puisque même Schelik, ouais. C'est pas génial non plus. Renato Sanchez, comme prévu, toujours blessé. Et puis l'autre, c'est Oussem Aouar, qui avait commencé par faire une très belle préparation.
Ouais, il avait fait un bel été. Hein,
ouais, c'était justement une des satisfactions de la préparation. Qui s'est blessé, qui a eu du mal à revenir, qui s'est fait tancer par Mourinho. Souviens-toi la déclaration où il disait « c'est pas nous qui allons aller vers lui, c'est lui qui doit s'adapter à notre jeu et à ce qu'on demande ». C'était quand même une déclaration assez forte. Donc voilà. Et après, la question subsidiaire, ça, Guillaume, c'est est-ce que Mourinho est en capacité de faire progresser les joueurs. Je ne vais pas parler mentalement, parce que ça me semble assez indiscutable quand tu écoutes les joueurs eux-mêmes en parler, mais sur tout l'aspect football-terrain.
Mais c'est évident que Mourinho, sur la mentalité, a apporté quelque chose. Je me souviens, Pellegrini avait parlé dans un quotidien anglais. Donc justement, il avait... Et je pense que, évidemment, que Mourinho a apporté quelque chose dans ces 3 ans. On ne peut pas dire que, voilà, il a apporté, qu'il est dépassé. Voilà, Mourinho a forcément apporté quelque chose dans ces 3 ans. Après, comme tu disais sur les recrues, à War, il a été assez sévère, hein, même de ce qu'il fit dans la presse romaine. Moi, je me rappelle un article dans le Messaggero où il disait qu'il y avait une incompatibilité caractérielle quasiment entre les deux, où tu sais, Mourinho adore évidemment ces joueurs qui sont prêts à mourir pour lui sur le terrain.
Ouais.
Et c'est vrai qu'Awa n'a pas, voilà, c'est pas du tout ce prototype-là. C'est plutôt un joueur, on va dire, technique, élégant. Voilà, exactement. Après, en fait, toi, ce que tu reproches un peu à ce mercato-là, c'est que ce soit un peu de l'instant team, enfin, tu vois, le fait que ce serait du, entre guillemets, du one shot pour l'instant, qu'il n'y ait pas de projection d'avenir, un peu comme on pourrait l'avoir, par exemple, dans d'autres clubs qui essayent de miser sur l'avenir. C'est plutôt ça.
Bah,
tu reproches, toi.
En fait, soit tu fais de l'impact immédiat et à ce moment-là, tu prends du très expérimenté, très fort.
À la Lukaku, par exemple.
Voilà. Ouais. Soit tu fais du jeune pour construire l'avenir, mais tu ne fais pas de l'entre-deux. Avec des joueurs, pour certains, qui étaient en échec dans leur club, pour la grande majorité. Le seul qui n'était pas vraiment en échec, c'est Ndika. Ndika était vraiment titulaire indispensable à Francfort, mais Christensen était en échec à Leeds, avec qui il est descendu. Oussem Aouar était en échec à Lyon, ça s'est mal passé au niveau relationnel à la fin, etc. Bon, vivement, il y a eu des choses qui ont fait qu'il n'avait pas le rendement nécessaire sur le terrain. Paredes et Sanchez étaient en échec aussi en Ligue 1. Donc, quand tu prends autant de recrues en échec, c'est difficile de leur demander du jour au lendemain d'être très, très forte. Donc, je trouve que le mercato est un espèce d'entre-deux qui ne colle ni à la construction de quelque chose, ni vraiment à ce que voulait Mourinho. Donc, finalement, tu ne fais aucun satisfait, que des déçus. Et donc, je trouve que quand tu commences cette saison-là, bah, tu ne la commences pas de la bonne manière, en fait. Parce que déjà, ton entraîneur n'est pas content du mercato. Si tu fais venir Mourinho, tu sais qu'un Matic, ça va le brancher. Tu sais qu'un Lukaku, ça va le brancher.
Mais c'est certain que Dybala et Lukaku ne seraient pas venus, par exemple, peut-être sans Mourinho. Dybala l'a dit souvent que dans sa réflexion, ça avait joué. D'ailleurs, leur avenir était un peu lié l'été dernier, hein, ce qu'on avait un peu compris dans la presse. Lukaku, forcément, l'a dit aussi. Mourinho, voilà, a toujours cette aura, et encore plus à Rome, Johan, où, comme tu l'as dit, c'est un club qui n'est pas habitué aux trophées. Et par exemple, quand on voit comment ils ont accueilli deux joueurs comme Lukaku et Dybala, qui sont évidemment de très bons joueurs, mais tu vois, Lukaku, Dybala n'auraient pas été accueillis comme ça, par exemple, à l'Inter, à la Juve, alors Dybala, Lille, évidemment, mais à l'AC Milan, tu vois, c'est des clubs qui les ont accueillis de manière très digne, mais tu vois, sans en faire des caisses, entre guillemets. À Rome, Lukaku, voilà, je me rappelle le match, je crois que c'était avant l'AC Milan, où il y a eu toute une cérémonie. Dybala, évidemment, il y a eu, c'était sur quelle place de Rome qu'il y avait sa présentation.
C'était dans la région.
Il n'y a personne pour l'accueillir.
Ouais, donc c'est ça, pas loin du siège de social du club, d'ailleurs.
Ouais, du club. Donc, tu vois, en fait, c'est forcément que Mourinho, là-bas, reste une espèce, enfin, profite, on va dire, d'une espèce d'immunité, mais pour revenir sur le discours et sur le mercato, c'est évident qu'il y a quand même beaucoup de questions. Et même pas que sur l'été dernier, Johan, même sur les précédents. Mmh. On sait que Pinto, on va dire, a un budget forcément limité. Hein. On rappelle que lui, il a rappelé même en conférence de presse la traditionnelle post-mercato. Il a dit, mais vous savez, au mois de juin, moi, avant le 30, je devais renflouer les caisses et rendre des comptes à l'UFA. Hein.
Donc, il avait vendu, 30 il avait millions vendu à trouver.
Voilà, exactement. Donc, il avait bricolé en leur vendant des jeunes, en vendant des joueurs, on a des économies par-ci par-là pour présenter à l'UFA un bilan assez propre. Et en ce moment-là, contre Pinto et Mourinho aussi, que quelques différences sur certains sujets. Mourinho, pareil, on ne savait pas s'il allait rester ou non. Finalement, il a dit qu'il restait. Mais c'est vrai que le mercato, en tout cas, c'est une espèce de... Il y a une espèce de non-sens un peu avec ce qu'il fait ailleurs. Par exemple, moi, je pense au Napoli la saison dernière. Qui aurait pu imaginer que Naples allait gagner, alors on se répète, mais c'est important de le dire, personne n'aurait pu imaginer Naples gagner le titre quand Mertens est parti, quand Ospina est parti, quand Insigne est parti, quand toute cette branche-là est partie. Naples a gagné en refondant son projet avec des finances, on va dire, saines, une masse salariale revue à la baisse, et quand même en tablant un peu plus sur l'avenir. L'année précédente, l'AC Milan fait pareil, avec un projet assez jeune. Et c'est vrai que j'ai toujours du mal, moi, à comprendre pourquoi parfois on n'essaie pas de suivre ce modèle-là. Il y a une espèce de nouvelle vague qui s'instaure chez certains clubs italiens. L'Atalante, ça fait beaucoup d'années qu'elle tente ça. Et c'est vrai qu'à Rome, quand tu vois certaines recrues, Johan, comme Autor et Anto Sanchez, bon, je peux comprendre l'idée parce que tu te dis, bon, allez, on va essayer de le relancer.
Ouais, mais non.
Et finalement, Mourinho, au bout de quelques semaines, te dit, non, mais le Bayern n'a pas compris, le PSG n'a pas compris. Et toi, du coup, au bout de trois semaines, tu comprends pas non plus. Fallait peut-être y penser avant. Surtout que c'est un prêt, alors avec obligation d'achat, mais lié à des présences. Bon. Et Paredes, c'est un achat définitif. Il était quand même en perdition depuis quelques années, l'ami Paredes. Donc voilà, il y a beaucoup de recrues quand même.
En fait, tu sais, Guillaume, parlé,
c'est compliqué.
Le truc, quand tu disais, là, à l'instant, tu prenais l'exemple du Napoli et de l'AC Milan, mais je trouve que la Roma est dans une vision totalement anachronique de ce sport et qu'elle n'a pas compris quelle était l'évolution et qu'il fallait suivre cette évolution. Et le problème, c'est qu'elle est un peu coincée aussi. Parce qu'à partir du moment où tu prends Mourinho, tu sais très bien que ça va avoir des effets sur toute la stratégie du club. Et donc, ce qu'a fait le Napoli, c'est inconcevable, voire même impensable de le faire avec Mourinho à la tête de l'équipe. Tu ne prends pas Mourinho pour faire ce qu'a fait Naples lors du mercato de l'été dernier, l'été 2022. Tu prends un autre type d'entraîneur. Et donc, tu es coincé avec ce truc de bah, « j'ai pris Mourinho pour certaines raisons » et pour moi, il y avait beaucoup de bonnes raisons quand ils ont pris Mourinho pour le prendre. Néanmoins, maintenant, tu te retrouves coincé et surtout, comme toujours avec ce type d'entraîneur, avec les Mourinho, les Conte, etc., arriver à la fin du cycle et tu vas dire « qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce qu'on a construit ?» Et en fait, si tu ne gagnes pas pendant ces cycles-là, si tu n'as pas l'euphorie de titre, alors on pourra répondre que la Roma l'a eu finalement avec la Coupe d'Europe, que l'Inter l'a eu avec son Scudetto. Ces entraîneurs-là, finalement, sont tellement obnubilés par le présent qu'ils en oublient qu'un club, c'est de l'anticipation. Et je trouve que la Roma n'anticipe plus, et c'est peut-être son plus gros problème actuellement, c'est qu'elle est tellement dans un quotidien, enfermée dans ce quotidien, dans ce besoin de résultat, dans cette stratégie pensée pour Mourinho, qu'elle n'anticipe plus. Et si tu te retrouves à la fin de la saison avec un Mourinho qui s'en va, sur quoi tu vas reconstruire ?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mais Johan, en plus, la question c'est est-ce que ça intéresse Mourinho de laisser quelque chose à la Roma?
Mais non,
bien sûr, ce que veut laisser Mourinho, c'est un souvenir de lui. C'est qu'on parle de lui pour encore plusieurs années et que dans 10, 20 ans, on se rappelle de cette Ligue Europa Conférence qu'il avait gagnée. Mais lui, je pense, préparer le terrain pour le futur, ça n'intéresse pas.
Bien sûr.
Parce qu'il sait très bien qu'il va probablement partir. Voilà, lui, il aime aussi rappeler qu'il a refusé une offre saoudienne l'été dernier, se faire désirer. On avait bien compris qu'il avait fait filtrer dans la presse que sa position était fragilisée avant le match à Cagliari. Ce qui, quand même, bon, peut-être pas forcément le cas, mais il avait envie aussi qu'on lui dise de rester. Mais
alors, mais juste revenons un instant là-dessus, ouais. Guillaume. Juste cette histoire de la une du Corriere dello Sport qui arrive à l'avant-veille,
du match
à Cagliari.
Où
en une, on a en gros, si Mourinho ne gagne pas contre Cagliari, il peut se faire dégager. Et en fait, ce qu'il faut expliquer aux gens qui sont pas. Suiveurs comme nous ou renseignés comme nous, il faut savoir que à la tête de la direction de la rédaction du Corriere dello Sport, on a un personnage très particulier qui s'appelle Ivan Zazzaroni, qui est vraiment un personnage, mon cher Guillaume, pas des plus intéressants, on va le dire comme ça, qui est très proche de Mourinho depuis très longtemps, depuis son premier passage en Italie, qui a écrit un bouquin sur Mourinho, il est en contact constant avec Mourinho.
Il a fait une interview il n'y a pas longtemps.
La seule interview faite en one-to-one hors club par Mourinho, tu as raison, c'est avec Zazzaroni sur le Corriere dello Sport. C'était en tout début de saison, je crois. Ou, je ne sais plus si c'était avant la reprise ou juste après la reprise.
Ouais, il y a quelques mois.
Et il y a même des journalistes qui ont vu Zazzaroni prendre son téléphone et appeler Mourinho. Ou inversement, parler avec Mourinho, puis il dit « Attends, j'appelle, hop, il appelle Zazzaroni, il fait filtrer les infos. » Et en fait, Mourinho, avec ça, il a une stratégie, c'est de se dire comme les résultats ne sont pas bons, je sais qu'il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que la rumeur info d'un possible départ va arriver. Je la fais filtrer. Comme ça, je sais que les supporters qui m'adorent encore vont pousser pour que je reste. Ça permet de prendre la température sur ce que pense aussi la piazza, mon cher Guillaume. Et voilà, c'est une stratégie 100% mourinienne qui dessert la Roma, mais on le sait. Et il y a des supporters de la Roma qui n'aiment pas entendre ça, mais il faut qu'ils le comprennent. C'est que Mourinho peut peut-être s'attacher à un club. Moi, je pense que Mourinho aime Chelsea. Je pense qu'il aime l'Inter. Je pense qu'il va finir par aimer la Roma quand il partira. Mais ce qu'il aime surtout, c'est lui. Et donc, tout est toujours pensé, non pas dans l'intérêt du club, mais dans son intérêt à lui. Si parfois ça rejoint l'intérêt du club, tant mieux. Mais Mourinho gère sa carrière par lui, pour lui surtout.
Mais comme tu disais, je pense vraiment qu'il est sincèrement... D'ailleurs, il fait quand même beaucoup, pas mal de déclarations vers la Roma, vers la Piazza. Mmh. Et justement, je pense vraiment qu'il y a un attachement réel et sincère entre la Roma et Mourinho, parce que la Roma quand même est aussi allée chercher Mourinho à une période de sa carrière où c'était compliqué. Elle a misé sur lui. Et je pense que c'est vraiment sincère, mais comme on le disait juste avant, Mourinho, ce qui intéresse, c'est l'instant T, c'est le présent, c'est de gagner maintenant et de savoir quelle trace lui laissera. Ce que fera la Roma après lui, je ne suis pas certain que ça intéresse beaucoup. À l'Inter, on s'en souvient, parce que je pense qu'à l'époque, quand lui est parti au Real et qu'après Benitez s'est planté, que Gasperini s'est planté, que quasiment tout le monde s'est planté avant l'arrivée de Conte quelques années plus tard, voire une décennie plus tard, je pense que lui était quand même plutôt content de voir que le dernier grand entraîneur qui restait, c'était lui. Mmh. Et comme tu disais, il pense beaucoup pour lui et par lui. Et pour revenir au terrain rapidement, une petite stat, tu vois, quand même, on parlait de ça un peu de l'instant team et de, on se concentre sur le présent. La Roma a une moyenne d'âge dans son équipe de 28,7 années. Ouais. Donc, c'est la troisième plus âgée de Serie A derrière l'Inter, 29,5, quand même, qui est première, et à Lazio, 28,9. Et dans son effectif, la Roma ne possède que 9,1% de moyenne de joueurs entre 22 et 25 ans. C'est la plus faible en Serie A. Mmh. T'as des clubs comme l'AC Milan qui en a 50, enfin, sur cette moyenne d'âge des joueurs entre 22 et 25 ans. La Milan, par exemple, en a 56,5. Le Napoli en a 40%. La Juve en a 48,7. Tu vois, et la Roma, c'est la seule équipe à moins de 10% sur cette moyenne d'âge des 22-25 ans. C'est assez symbolique, je trouve, quand même, dans toute cette réflexion, comme tu disais, anachronique de la Roma, de son projet à très court terme.
Guillaume, un petit mot quand même, je l'ai dit en préambule, sur le gardien, l'une des premières recrues de l'ère Mourinho, Rui Patricio, qui a fait un début de saison absolument horrible. C'était un tir cadré, un but. Hein. C'est aussi simple que ça. Il est à l'image du jeu de l'équipe fortement en déclin. Il y a un truc qui agace beaucoup, c'est qu'il ne sort jamais de ses 6 mètres. Il n'anticipe jamais sur la profondeur pour les attaquants adverses. Tu lui demanderas jamais de sortir, faire des sorties aériennes sur corner ou sur coup franc qui dépassent ses 6 mètres. Il n'a pas un jeu au pied extraordinaire, mais ça passe à peu près ça, de ce côté-là. Ce n'est pas ce qui me choque le plus. Mais oui, si la Roma a encaissé beaucoup de buts cette saison, elle le doit à un système un peu bancal, elle le doit à des performances individuelles de certains joueurs, en deçà évidemment aussi hein, des attentes, et notamment de son gardien.
Oui, il est en grande difficulté, même personnel, on voit bien qu'il manque de confiance. Moi, j'ai le souvenir aussi de... Je me rappelle quand Lukaku est arrivé, de supporters de la Roma à l'aéroport qui demandaient à Thiago Pinto et qui lui chantaient « recrute un gardien ». Tellement il y avait déjà cette appréhension des performances du Rui Patricio. Et alors autant il y a des équipes, Johan, qui demandent au gardien de repartir, on va dire, dans le jeu court. Et lui, Rui Patricio a plus cette liberté quand même de pouvoir dégager assez loin, et notamment sur Lukaku. Donc il n'y a même pas cette pression-là, mais on voit bien un gardien qui est en manque de confiance, qui est dans une espèce de spirale négative. Et surtout, on m'a toujours appris, tu sais, Johan, que les gardiens, soit tu fais gagner des points, soit t'en fais perdre. Et aujourd'hui, Rui Patricio, t'en fais clairement perdre. On voit vraiment qu'il... C'était vraiment une espèce de boulet que se traîne la Roma, et même la défense romaine, déjà qu'elle n'est pas en confiance non plus. Même sur le langage corporel de certains joueurs, notamment Mancini, où je vois souvent, tu sais, un peu désespéré, voire râler envers Rui Patricio, parce qu'il est... voilà, en fait, il ne dégage pas cette confiance. Quand tu vois d'autres clubs avec d'autres gardiens qui ont une espèce d'aura, une espèce d'assurance, ça se répercute tout de suite sur la défense. Et là, clairement, à la Roma, comme tu l'as dit, déjà que c'est un peu bancal, si en plus ton pilier derrière n'est pas capable, on va dire, de même de faire le job, parce qu'aujourd'hui, il n'assure même pas le minimum syndical. Tu l'as dit, il fait beaucoup d'erreurs. Voilà, il cause aussi des pénalties un peu bêtes parfois. Et aujourd'hui, c'est clairement un problème. Alors, moi, la question que j'ai envie de te poser, et que peut-être que se posent aussi les auditeurs qui ne suivent pas forcément la Roma, nous, on a cette chance-là, mais est-ce que Mourinho pense à un changement de gardien? Est-ce qu'il a la possibilité de le faire? Et est-ce que Rui Patricio est en danger aujourd'hui?
Ça avait été évoqué cet été, mais le problème, c'est que la Roma n'a pas d'argent à mettre sur le poste de gardien. Donc, a priori, il n'y a pas de changement à prévoir, sachant que Svilar, pour le moment, fait plutôt des bons intérims, je trouve, en Europa League. Donc, peut-être qu'on pourra voir au cours de la saison, selon ce qui se passe et selon comment ça continue, parce que Rui Patricio, son déclin, l'a aussi mis sur le banc en sélection. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, ce n'est plus le gardien titulaire de la sélection portugaise. C'est Diogo Costa, le gardien de Porto, qui est vraiment un très bon gardien. Donc, il y a un enchaînement aussi club-sélection qui est vraiment compliqué à gérer pour Rui Patricio. Mais il peut se reprendre et il a montré parfois, lors de sa première année surtout, qu'il était en capacité d'être décisif. Voilà, il va falloir retrouver ça parce que si la Roma veut remonter au classement, rappelons, mon cher Guillaume, que c'est la quatrième place qui visait, comme chaque année, et que ce serait bien pour la première fois sous l'ère Mourinho que la Roma réussisse à atteindre cette quatrième place. Si tu veux remonter au classement, il va falloir que ton gardien t'arrête aussi des ballons. Parce que, évidemment, Dybala Lukaku, avec toutes les qualités / limites qu'ils peuvent avoir, limites notamment physiques, ils vont te mettre des buts. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'ils t'en mettent 4 parce que tu n'arrêtes pas de ballons. Ça va devenir aussi très compliqué de ce côté-là.
Mais le dernier très bon gardien de la Roma, Johan, c'est Alisson, du coup.
Ouais.
Si on repense à Paul Lopez, ouais, Paul Lopez après, où ça avait été compliqué.
Oui, Robin Olsen, Paul Lopez, non, c'était pas bon.
Ouais, c'était lui dans le. C'était Lopez dans le but, dans le derby, où il se met quasiment le but tout seul, tu sais, sur un coup de pied arrêté. Ouais. Et c'est vrai que le Patricio, quand il était arrivé, autant il avait ce statut de un peu de taulier du Portugal. Mais c'est vrai que depuis, c'est une espèce
sa première saison,
de lent déclin.
Ouais, sa première saison, elle est quand même bonne, il ne faut pas tout lui enlever. Sa première saison, elle est bonne en finale de la Conference League. Il est bon, il est décisif. Mais depuis cette première saison-là, la saison dernière, elle est vraiment pas bonne. Et là, Guillaume, je ne sais même pas quel mot utiliser, mais elle est loin d'être catastrophique.
Bah, un déclin. On a le sentiment d'un lent déclin, vraiment. Et en plus, un gardien, la confiance, vraiment, ça fait quasiment tout. Donc, autant les autres postes, parfois, tu peux un peu compenser par plusieurs choses, les courses. Ouais. L'attitude, le placement, autant un gardien quand il est en manque de confiance, c'est criant et que tu sens bien que sa défense aussi est pas forcément rassurée par ses performances. Forcément, c'est une espèce de spirale où tu as des gardiens parfois qui ont du mal à se relever. Je pense notamment, c'est pas pareil, mais regarde Radu, qui était quand même plutôt un bon gardien à la base. Hein, et depuis son erreur contre Bologne, la fameuse erreur jouée au pied qui avait plus ou moins coûté le titre à l'Inter. Il y a deux saisons maintenant, c'est une espèce de spirale où après, ils n'en étaient quasiment pas sortis. Et c'est vrai que Patricio...
Alors, Radu avait été excellent à Auxerre en deuxième partie de saison.
Ouais, ouais,
mais
ouais.
Le
exactement.
Problème, c'est que là, il a fait un choix de partir à Bournemouth où il n'est pas titulaire. Et en fait, tu repères du temps, quoi.
Et c'est vrai que Patricio, pour le coup, clairement, et en plus les supporters l'ont un peu pris en grippe hein, aujourd'hui, où vraiment on sent qu'il y a beaucoup d'agacement. Et aujourd'hui, voilà, les joueurs de la Roma, comme je le disais juste avant, réclamaient un cadre dès cet été. Après, est-ce que Zula, à court terme, peut lui prendre le poste? Mourinho avait l'air de dire que non et qu'officiellement, il avait confiance en son gardien. Après, voilà, peut-être que la question, quand même, à un moment, va devoir se poser parce que aujourd'hui, c'est un gardien qui te fait perdre des points. Et ça, c'est quelque chose que la Roma, aujourd'hui, avec le retard qu'elle a accumulé, ne peut quasiment plus se permettre. Et on a un derby, Johan, qui va arriver, qui va être décisif, quasiment, pour les deux équipes. Hein, parce qu'on parle de la Roma et on pourra aussi faire un podcast plus tard sur la Lazio, mais on a quand même une équipe de la Lazio aussi qui a du retard. Donc, le derby qui arrive d'ici trois semaines, un mois, il va être décisif pour la Roma, mais aussi pour la Lazio. Hein.
Et juste un petit point pour boucler ce podcast sur le calendrier, parce que c'est toujours intéressant de regarder un peu ça, j'aime bien regarder. Ils vont avoir une fin d'année, début d'année prochaine, mon cher Guillaume. Attention, 10 décembre, Fiorentina. 17 décembre, déplacement à Bologne. 23 décembre, réception du Napoli. 30 décembre, déplacement contre la Juve. 7 janvier, Atalanta. 14 janvier, AC Milan.
Ah donc oui,
là,
c'est...
là, on est sur du très, très lourd. Et donc, soit la Roma aura perdu des points contre les petits, ils vont les récupérer contre les gros, soit ça va être une saison vraiment très, très compliquée. Voilà, mon cher Guillaume, on aura le temps de reparler de la saison de la Roma, de certaines individualités. On n'a plus le temps de parler de Lorenzo Pellegrini, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment ses blessures. Mais on maintient notre format assez court de ces podcasts-là. On a de très bons retours. N'hésitez pas d'ailleurs, mon cher Guillaume.
Oui, les étoiles.
Et tu sais que depuis notre dernier podcast, on a eu plusieurs personnes qui sont venues mettre les 5 étoiles, des commentaires aussi sur Apple Podcasts. Donc, on les remercie chaleureusement d'avoir pris ces quelques secondes pour aller mettre ces étoiles à ce podcast. Tu vois, j'ai Nico... Kennedy, Massoun, qui nous ont ajouté des 5 étoiles et des bons et des jolis commentaires. Donc, on les remercie vivement. N'hésitez pas à faire comme eux. Vous le partagez également. D'ici là, n'oubliez pas calcioepp.fr, le compte Twitter également. Et puis, Guillaume, on se dit à très vite. On aura encore pas mal de...
Très vite, ouais. Bien sûr, les copies, les commentaires, n'hésitez pas à en laisser.
Et puis, ouais, Guillaume, un format que tu aimes beaucoup qui va bientôt arriver.
Oui, les questions-réponses, on adore ça, Johan. Donc, allez-y, même dans mon Twitter, n'hésitez pas, mes DM sont ouverts, j'ai déjà reçu quelques questions. Donc, n'hésitez pas à me transmettre vos interrogations, vos questions, vos demandes, vos curiosités. Voilà. On y répondra, Johan, d'ici peu.
Ouais, même si vous n'avez pas de questions, si vous voulez qu'on mette en avant un club, un joueur, un entraîneur, positivement ou moins positivement, n'hésitez pas, on est... C'est un peu qui allait faire le programme de cet épisode-là, hein, donc profitez-en.
Exactement. Il arrivera la semaine prochaine, donc allez-y, voilà. Vous avez encore cette semaine de travail international où il y aura encore un peu de repos. Hein, donc allez-y, transmettez-nous vos interrogations, tout ce que vous voulez, et on en parlera à l'antenne d'ici une bonne semaine, Johan.
Exactement. Il ne nous reste plus qu'à se dire à très vite, mon cher Guillaume. Et d'ici là, restez à l'écoute de Calcio et Pépé. Ciao, ciao.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.